Salut à tous, bienvenue dans Electric Troubles Radio Show numéro 1570. Aujourd'hui, il y a l'interview du groupe Mince Du de Cabreton. Voilà, donc on va retrouver Romain tout à l'heure. Il ne sera pas dans nos studios, mais il sera au bout du téléphone, comme bien souvent. Je n'allais quand même pas le faire venir de Cabreton, le monsieur. On va commencer l'émission par ce qui sera l'album de la semaine avec Last Night We Killed Pineapple. Formation d'Amiens, Free, c'est le titre du morceau extrait du EP Everything. On va s'écouter ça. Je vous invite donc à aller faire un petit tour sur internet. Il y aura deux autres morceaux diffusés samedi dans la playlist électrique Troubles. Voilà, on s'écoute ce morceau Free et on se retrouve juste après. Mais juste, j'oubliais les prochaines interviews Electric Troubles. We Hate You, Please Die, formation rouennaise la semaine prochaine, mercredi. Le mercredi suivant, ce sera Cathédrale, et le mercredi encore après, Patrick Foulux qui viendra nous parler de son bouquin sur le label Black et Noir. Ça va être super cool. Allez, c'est parti. Voilà donc un premier morceau dans Electric Troubles. Il s'agissait du groupe Last Night We Killed Pineapple, donc formation d'Amiens, comme je le disais. Free, c'est le titre du morceau, extrait de Everything, donc un EP. Il y aura deux morceaux, comme promis, ce samedi aussi dans la playlist Electric Troubles. Voilà, pour l'instant, on arrive à se tenir à ça, à cet album de la semaine, et c'est bien cool. Ça permettra de faire un petit focus, comme on dit, dans le milieu. Enfin, je ne sais pas dans quel milieu, mais non, c'est pas dans le mien d'ailleurs. Mais enfin, en tout cas, on s'en fiche. Là, on est avec Romain, donc du groupe, j'espère que je le prononce bien, Minsdu.
Salut Yann, c'est Minsdu.
Minsdu, voilà, c'est bien, d'accord.
Mais ça s'écrit Minsdu, alors...
Donc t'exagères. Donc on va parler d'un album et puis du groupe, voilà, formation atypique, comme disent certains, puisqu'il y a une particularité. Qu'on évoquera. Et donc, j'aimerais avant tout que tu me dises, Romain, comment cette aventure a commencé. Voilà. À quel moment?
Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de moment où cette aventure a commencé. Donc, En fait, je fais ce groupe avec mes deux fils, qui ont maintenant 16 et 12 ans. Alors, on dit souvent qu'on a commencé, enfin, on nous demande une date qui a 2 ans, c'est au moment où on a sorti un petit EP. Mais finalement, c'est un projet qu'on a depuis assez longtemps. En fait, c'était pas Minsdu, c'était pas un groupe au départ, c'était juste lorsqu'on jouait tous les trois ou même à deux au départ. Donc on pourrait presque dire que ça fait 10 ans qu'on joue.
Mmh. Ah oui.
Mais c'était pas un projet voué à être un groupe qui fait des concerts ou sort des disques.
D'accord, donc c'était une envie récréative.
Ah, complètement. Ouais. C'était en fait les garçons, il y a pas mal d'instruments à la maison, ils aimaient faire du bruit dessus. Et puis moi j'allais faire un peu de bruit avec eux pour partager un truc avec eux.
D'accord.
Et puis, petit à petit, ça s'est transformé en un projet un peu plus qui ressemble un peu plus à un groupe.
D'accord. Et les deux garçons, justement, ils étaient branchés au départ sur les instruments qu'ils utilisent aujourd'hui ou en fait ils touchaient un petit peu à tout?
Alors ils ont justement, Soren, qui est à la batterie dans le groupe, qui joue d'autres instruments, des petits, il s'est mis à la batterie. En fait, la batterie, c'est l'instrument le plus facile, enfin, pas le plus facile, mais quand t'es petit, tu tapes dessus, tu fais un bruit. Tu prends une guitare, c'est un peu plus compliqué de sortir quelque chose, c'est un peu plus frustrant. Moi. Tous les deux, ils ont commencé par la batterie parce que même si c'était pas bien joué, ils faisaient du bruit, ils s'éclataient et ils ressortaient quelque chose.
D'accord. Avec une formation, la formation justement musicale, c'est quoi? C'est sur le tas ou c'est avec toi ou c'est avec des profs?
C'est beaucoup, beaucoup à la maison. Ils ont fait un peu des rock school à côté de chez nous, mais c'est surtout à la maison. Et c'est moi, j'aurais jamais donné vraiment de cours. On a beaucoup joué ensemble, mais je n'ai jamais forcé ou leur dire tiens, faut que tu joues comme ça. Plus quand ils me demandaient des conseils, je les guidais un petit peu, mais ils se sont formés beaucoup en jouant avec moi et en jouant tous les deux aussi.
D'accord. En quoi ça pourrait simplifier les choses de jouer en famille et en quoi ça pourrait les compliquer?
Ah, très bonne question. Écoute, jouer en famille, déjà pour les plannings, pour avoir eu des groupes. Avant, on a un peu le même planning, on va dire. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple pour répéter, surtout qu'on répète à la maison. Donc on peut répéter un peu quand on veut. Qu'est-ce qui va être plus difficile? Ça va être plus difficile pour tourner, parce que forcément, vu leur âge, ils sont en cours. Et puis on va plus se fier pour bouger un peu sur les vacances scolaires. Mais je dirais que c'est peut-être plus facile au final. Et puis même au niveau des envies, ce groupe là on fera que tous les trois, c'est à dire qu'il n'y aura jamais un musicien qui va partir et on le remplacer par un autre. Donc c'est plus évident, on va dire. Je pense.
D'accord. On va s'écouter donc un premier morceau, Invisible. Est-ce que tu as quelque chose à dire de celui là qui donc je rappelle extrait de Shapeshifter?
C'est le premier morceau qu'on a sorti en extrait de l'album. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est un morceau assez pop, c'est un morceau qu'on a failli pas garder pour l'album, justement. Et qui, après le mixage, en fait, nous a repris beaucoup de valeur. Et donc, tu vois, on l'a même sorti en premier extrait de l'album. Et voilà, ça parle du fait de vouloir rester invisibles à certaines personnes qui ne te calculent pas au départ, mais qui vont changer d'attitude dès que tu présenteras un peu un intérêt pour elles. Donc voilà, c'est un peu l'idée du morceau. Voilà, c'est okay. un morceau assez pop sur l'album.
D'accord, ben, on se l'écoute de suite et on se retrouve juste après. C'est parti. Premier morceau donc de Means Do Invisible, extrait de Shapeshifter. Dis-moi Romain, entre la période où je t'avais connu avant 36 Side et donc cette formation, les choses ont forcément changé dans la vie, dans l'organisation, dans les impératifs. Quel regard portes-tu sur ton lien à la musique, sur tes envies?
Écoute, après le projet avec 36 Side, j'ai pas fait grand chose d'officiel entre guillemets, j'ai pas monté de projet où on tournait, où on faisait des concerts. Par contre j'ai beaucoup continué à faire de la musique. Je sais pas si j'aurais refait un projet, si j'avais fait ce projet avec les garçons, je sais pas si j'aurais refait un projet à faire un disque, à faire des concerts si j'avais pas fait ça avec les gars. Peut-être que j'aurais fait. En fait, ça dépend des rencontres. Puis en musique, il y a toujours des envies que j'ai et j'avais envie de faire quelque chose, un style qui est très précis. Et j'ai plus eu l'opportunité de les faire avec les garçons qu'avec d'autres personnes.
D'accord.
Alors, honnêtement, je ne sais pas si j'aurais refait un projet, j'allais dire sérieux. Il est loin d'être sérieux ce projet, mais un projet où on va vraiment essayer d'aller au bout de faire des concerts. Mmh.
Ok. À quel moment tu as ressorti une sorte de déclic qui aurait pu te faire dire tiens, mais il y a peut-être quelque chose à faire avec ce petit projet à trois?
Avec ce petit projet, bon, il n'y a pas vraiment eu de déclic. En fait, tout s'est fait vraiment petit à petit. C'est-à-dire on a commencé à se faire des morceaux. Vu qu'on peut enregistrer à la maison, bon, on s'est dit tiens, on se les enregistre, c'est marrant. Et puis bah, j'avais fait tourner le petit EP à des copains qui m'ont dit si tu veux on vous fait jouer l'année prochaine, donc on s'est dit bah il nous faut plus de morceaux. Il n'y a pas eu de déclic, tout s'est fait vraiment petit à petit. Honnêtement, quand on a commencé à avoir des morceaux, mon rêve c'était de faire au moins un concert avec eux. Et puis écoute, bah, petit à petit les choses ont évolué comme ça, mais c'est vraiment fait au coup par coup, sans trop calculer ou se dire on va faire plusieurs concerts ou faire un album.
D'accord. En tant que père de deux ados, est-ce qu'il y a des limites que tu ne veux pas dépasser? Ou un rythme de travail ou...
Par rapport au groupe, bah, de toute façon, l'objectif numéro un, c'est de s'éclater, se faire plaisir. Faut que tout le monde s'éclate, faut vraiment que ce soit sympa. Forcément, ben, par rapport au concert, enchaîner 3-4 dates quand t'as 12 ans, je pense que c'est un truc où tu prends aucun plaisir et qui est épuisant. On va essayer de scaler plusieurs dates de suite, mais en se faisant des petits stops de 3 jours entre. Faut que ce soit fun, quoi. Faut que ce soit cool, faut que tout le monde soit content et que tout le monde ait le sourire. Faut pas que ce soit contraint.
D'accord. Tu as une idée des plus chouettes moments partagés là dans cette aventure depuis le début?
Écoute, il y en a beaucoup. Je sais que la première fois qu'on a fait un concert, ils m'ont remercié. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment. Ouais. Ils m'ont dit merci de nous avoir permis de faire ça. Donc ça, j'avoue que ça a été un chouette moment. Écoute, il y en a plein. On a eu l'opportunité d'aller sur un festival en Normandie. Ça, c'est un chouette moment d'avoir pu les emmener sur un festival, de jouer là-bas, de partager tout ça. Et puis un chouette moment aussi, c'est quand on a reçu le vinyle de notre album. C'était un peu notre objectif d'avoir un peu ce disque en souvenir. C'est un moment assez cool.
D'accord. Si on devait définir l'esprit musical du groupe, on citerait quoi comme famille d'affiliation?
Ça c'est compliqué. On met toujours power pop, post-hardcore, ça c'est parce qu'à chaque fois qu'on nous a donné les chroniques, on nous a un peu qualifié là-dessus. Écoute, on écoute essentiellement, enfin beaucoup de trucs rock, mais assez variés. C'est difficile, hein. Moi, je viens beaucoup de trucs mélos, punk-pop. Au début, ils écoutaient beaucoup de trucs un peu plus durs que moi, on va dire, un peu plus métal que moi. C'est pour ça que je m'étais mis à la voix screamée. C'est impossible pour quelqu'un de faire sa musique. Hein. Je pense qu'on on te répond ça souvent. Donc c'est pour ça qu'on mettait power-pop, post-hardcore, parce que sur les chroniques, c'est ce qui ressortait un petit peu de l'ambiance de la musique.
D'accord. Et à quel moment vous avez décidé de faire un véritable album?
C'est un petit peu ce que je t'expliquais tout à l'heure. Tout s'est fait progressivement. Donc quand on a eu l'opportunité de commencer à faire des concerts, on s'est construit un set avec 14 morceaux. On s'est dit, écoute, ce serait sympa de se garder un souvenir, de mettre ces morceaux à plat. On a commencé à les enregistrer, on les enregistre à la maison, et puis on a trouvé que ça sonnait correctement, enfin on était content du résultat, donc on a fait appel à Jean-Baptiste Calio de l'ESAT pour nous mixer tout ça. Il nous a fait quelque chose qui sonne, et puis on s'est dit on va au bout du projet, on en fait un album, on essaie de sortir de manière classique entre guillemets.
D'accord.
On n'avait pas planifié un album en fait.
D'accord. Comment on crée un morceau, justement, dans ce groupe? Comment ça se passe?
Comme dans tous les groupes.
Ah, d'accord.
Comme dans tous les groupes. Non, après, moi, quand je fais guitare-chant, j'arrive souvent avec des riffs et puis des lignes de chant. Et puis, écoute, on bosse là on bosse la structure et puis l'arrangement ensemble. Alors une question qu'on me pose souvent, on me demande souvent si c'est moi qui leur écris leur partie.
Ouais.
je leur écris absolument rien. C'est-à-dire que même quand on a enregistré, je dis ah bah tu joues ça, je m'en étais même pas rendu compte. Ils font ce qu'ils veulent, et puis voilà, comme dans tous les groupes, hein, on recommence, ça plaît à un, ça plaît pas à l'autre, ça plaît à tout le monde. Et puis voilà, c'est pas. Je leur impose rien en termes de riff ou d'arrangement.
D'accord. Bon, mais je vais pas
poser souvent la question, c'est pour ça.
Oui, mais je vais pas te la poser, mais elle était prévue, forcément, parce que je suis pas différent des autres. Et puis c'est toujours, c'est toujours vu l'âge
des deux ados. Souvent, les gens sont curieux de ça, mais encore une fois, on fait ça pour que ça plaise à tout le monde, que ce soit fun. Il y a rien qui, je vais pas leur imposer des parties, tu vois. Personne ne s'amuserait.
C'est sûr. Bah oui, ça serait très scolaire.
Et puis autant dire que je fais pas ce que je veux.
Hein. Ouais.
Ils ont leur avis. Hein. Je fais pas ce que tu veux.
D'accord. Est-ce que tu as reclassé dans ce projet des idées d'anciens morceaux de ta première aventure musicale?
Alors pas du tout. Justement aussi ce qui est sur ce projet par rapport à mes projets différents, comme beaucoup de personnes, tu as tes réflexes en fait. Hein. C'est un peu toujours la même manière de composer ou de sortir des riffs. Et comme on a eu du temps avant de lancer tout ça, j'ai complètement changé l'accordage de ma guitare, qui fait que ça m'a permis de trouver des sonorités un peu différentes. On a vraiment essayé de repartir à zéro et de trouver de nouvelles idées. C'est passé donc par un accordage différent de la guitare. J'ai appris entre guillemets à faire un chant un peu plus scrimé parce qu'avant je faisais que du mélo. Donc tout ça, ça a ouvert de nouveaux horizons, on va dire. Changer un petit peu ma manière de faire des morceaux.
D'accord. Dis-moi, en quoi cette aventure aurait pu faire grandir tes deux ados? Mais comment ils étaient un peu au début et comment ils sont maintenant par rapport à la musique?
Ce qui est super, c'est que dans ce milieu-là, quand tu fais des concerts, t'es vraiment un monde d'adultes. Hein, je trouve ça super parce que ça les fait vraiment côtoyer des adultes se sentir, je ne sais pas comment t'exprimer ça, mais être à l'aise plus avec les adultes. Et Stig, qui est plus jeune, qui joue de la basse, au début, on s'est dit peut-être qu'il n'osera pas monter sur scène. Pareil, le public, hein, c'est un public d'adultes en général. Et je trouve ça super parce que ça les fait grandir, ça les fait un peu s'affirmer et oser.
D'accord.
Mais l'accueil est toujours... ce qui est super, c'est que c'est toujours... il y a toujours un super accueil. Quoi. Je m'étais posé la question en jouant avec des enfants, parce que Stig il a 12 ans, je me demandais comment ça pourrait être vu sur certains concerts, mais ça se passe toujours super bien. Quoi. Au contraire, quoi. C'est un plus bas du show.
D'accord. Dis-moi, tu peux me parler des textes? De quoi il en retourne?
Alors, les textes, il y a beaucoup de choses différentes. Si tu veux, sur le premier EP, je te cache pas qu'on avait fait des instrus et j'ai fait des textes sur le bord de la console pour c'était pas censé sortir. Là, en fait, tous les morceaux, on les a bossés avant. Alors, il n'y a pas de thème général sur l'album, mais il y a des morceaux ça parle, je sais pas, de frustration et de pas avoir de contrôle sur un événement que tu subis. Sur des cauchemars, sur... il y a tout, il y a des trucs positifs, des trucs un peu plus... Il n'y a pas de thème général, mais par contre, au niveau des paroles, ce serait avec un autre groupe, ce serait pareil. C'est-à-dire que ce n'est pas des textes qui vont être adaptés à l'âge des garçons, je pense que c'est des textes qui auraient été écrits pour un autre groupe dans lequel j'aurais joué.
D'accord, donc c'est toi qui fais les textes?
C'est moi qui l'ai fait.
Ouais. D'accord. Et donc, quand on écrit un texte, on donne un peu de soi. Et le faire devant ses propres enfants, c'est pas particulier? Plus particulier?
Oui, c'est vrai que c'est particulier. Alors après, je te cache pas que eux, ils sont là aussi pour la musique et que ça sonne. Ils vont pas forcément y prêter une attention particulière. Mais c'est vrai que oui, quand tu écris quelque chose, il y a forcément des choses qui ressortent. Après, voilà, je pense qu'eux, ce sont pas c'est pas leur priorité, quoi, le texte.
D'accord. On va s'écouter un deuxième morceau, donc Eyes.
Tu as quelque chose? Sans Eyes.
Ouais. Ah oui, non, voilà. Il manque une lettre. Ok, pardon, donc j'ai fait deux fois la même connerie. Est-ce que tu peux me parler de celui-là?
Ouais, bah c'est un petit morceau pop-punk assez basique mais efficace. Je pense que c'est un des plus vieux morceaux de l'album. C'est un morceau qui parle de un peu de la dépendance qu'on a tous par rapport au numérique. Voilà, c'est un morceau plutôt efficace qui convoit un peu la sauce.
Ok, mais on se l'écoute et on se retrouve pour une dernière partie de cette interview. Voilà donc un deuxième extrait de l'album de Mince Jew, pardon, Shape Shifter, c'est le titre du disque. Est-ce qu'il y a des clins d'œil musicaux à des groupes sur ce disque?
Ouais, enfin des clins d'œil musicaux, forcément t'as des. En fait, quand je le réécoute avec du recul, je retrouve. Tu sais, moi par exemple, je suis un gros fan de Texas Is the Reason, ouais. Et je retrouve des fois, sans le vouloir, des petits riffs qui me font penser. Oui, des clins d'œil, bah en fait il y a plein de grosses influences dessus, donc pas de clin d'œil direct. Par contre, au niveau des paroles, c'est vrai que j'aime bien glisser des petits clins d'œil à des groupes dans lesquels j'ai joué avant, ou des paroles que j'aime bien dans des groupes que j'écoute depuis longtemps. J'aime bien mettre une petite phrase ou un petit truc comme ça. Il y a que moi qui le sais, mais ça me fait marrer.
D'accord. Tiens, je vais te demander de compléter la phrase suivante. Un morceau de Mince Jew doit forcément être...
doit forcément être fun à jouer.
D'accord. Ouais, donc c'est ce que tu disais au départ.
Exactement.
Ok. Tu peux me parler du visuel? Parce que c'est quand même important,
oui, oui.
Le visuel,
mais
sur
écoute,
ce disque.
On... on a la chance d'avoir Rock, c'est Tortuga 666, que tu connais peut-être, qui chante dans Vegan Piranha, qui est un illustrateur qu'on a rencontré sur un concert, on a bien sympathisé, qui nous a fait tout le visuel de l'album. En général, sur les albums sur lesquels j'ai joué, c'est moi qui m'en occupais, et c'était fait un peu sans trop réfléchir, un peu comme ça. Là, il nous a fait un truc vraiment super. Super. On en avait discuté un petit peu du visuel, j'avais donné 2-3 pistes, mais j'ai laissé vraiment faire ce qu'il voulait. Et toutes les idées viennent de lui. Écoute, je suis hyper content du visuel, il nous a fait un super truc. Et encore une fois, quand on a reçu le vinyle, c'est là où tu vois que le visuel a son importance et qu'il a fait un super boulot. Quoi.
D'accord. Dis-moi, une sortie en format vinyle, ça a un coût. Et le problème, c'est quand on est tous de la même famille, ça doit être un peu plus compliqué de monter un budget, non?
Exactement. c'est plus compliqué et moins compliqué dans le sens où il n'y a qu'une personne qui s'en occupe. C'est-à-dire que si tu es 4 dans un groupe et qu'il y en a 2 qui n'ont pas envie d'investir dedans, c'est mort. Écoute, vraiment notre but, c'était d'avoir notre vinyle pour nous. On adore les vinyles, donc on s'est dit, il nous faut un vinyle. Au départ, on voulait même le faire faire à l'unité. Et puis, ça coûte très cher. Et puis, autour de nous, il y a plein de potes ou de gens qui nous ont dit, ah, ben moi, j'aimerais bien avoir mon vinyle aussi. Donc, on a étudié le truc. À notre niveau et tout ça, ça n'avait pas trop d'intérêt de passer par un label. On a fait une petite prévente en fait par un site de crowdfunding. Moi, je suis pas très fan forcément du crowdfunding au départ, mais c'était le moyen de faire une prévente. Et puis, écoute, à notre grande surprise, ça a super bien marché. Et puis, on a pu se financer ce pressage.
D'accord. Donc, que du vinyle?
Non, on l'a fait en CD. Le CD, bon, ça coûte pas très cher. Le CD à faire. On s'en sert plus pour de la promo, mais on a fait CD vinyle et puis streaming sur les plateformes habituelles.
D'accord. Dans la famille, on s'offre des vinyles à Noël? C'est le cadeau obligatoire?
Exactement. Ah ouais, on s'offre plein de vinyles. En général, quand tu reçois le paquet cadeau, tu sais exactement ce que c'est.
Ouais, bon, à la forme, tu sais.
À la forme, t'as un vinyle.
Ok, vous arrivez à vous surprendre musicalement les uns les autres là, ou alors c'est en fait vous avez une espèce de culture commune.
Écoute, c'est vrai que j'ai été beaucoup influencé sur beaucoup de groupes. Enfin, j'aurais fait écouter beaucoup de groupes. Enfin, ils m'ont demandé d'écouter beaucoup de groupes. D'ailleurs, je suis étonné des fois dans leur chambre, je les entends écouter des groupes que j'aurais fait découvrir il y a longtemps que j'avais pas écouté depuis longtemps aussi. Et après, voilà, ils écoutent. Là, ils sont à fond sur The Smile en ce moment, le groupe des ex-Radiohead. C'est beaucoup de. C'est tout ce qui va tourner au niveau du rock. Ils vont être vraiment plus branchés là-dessus, moi aussi. Mais vraiment, du truc folk ou. Des trucs comme des fois, ils écoutent Morbid Angel, des trucs comme ça, des trucs que j'ai jamais écoutés, je sais pas d'où ça sort. mais voilà. C'est vraiment. Rock.
D'accord, c'est pas un peu la cacophonie à la maison de temps en temps? Si chacun écoute son truc dans son coin.
Il y a un peu de ça, mais ce qu'il y a, c'est que tout le monde accepte la même musique, donc on peut mettre notre musique. Mais c'est vrai qu'entre un qui écoute de la musique et l'autre qui part jouer de la batterie en bas, des fois c'est un peu violent pour celui qui n'est pas habitué.
D'accord. Dis-moi, question, vous avez des covers en stock ou pas?
On a deux covers. On a des covers des Beatles. On a un petit groupe, un autre groupe familial qu'on fait avec mon père, tous les quatre, où on fait des petites covers des Beatles. Oui. Du coup, on s'en est importé deux sur notre set, qu'on aime bien, des fois on lui joue en fin de concert.
D'accord. On va terminer. Oui, quelle est ta vision actuelle du réseau musical par rapport à ce que tu as connu avant? Est-ce que tu trouves qu'il y a des changements, des difficultés? Est-ce que les connexions sont un peu les mêmes?
Écoute, moi j'avais un peu lâché tout ça. C'est-à-dire que moi, je continuais à écouter beaucoup plein de groupes et écouter des émissions radio comme la tienne pour découvrir des trucs. Et par contre, tout ce qui est C'est vrai que j'ai eu un peu moins de fanzines, moins de connexions pour les concerts. C'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver des concerts. Enfin, je m'en suis pas beaucoup occupé. La plupart des concerts qu'on a trouvés, c'est des trucs qu'on nous a proposés. Là, on essaie de monter des trucs. C'est pas forcément évident, quoi. Il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de trucs. Même pareil, tu vois, pour la promo du disque, j'ai envoyé quelques messages. C'est vrai que t'as pas forcément des réponses tout le temps. Enfin, je pense que les gars reçoivent des centaines de mails tout le temps. Donc j'ai pas trop de recul, j'ai un peu lâché le truc. Avant c'était quand même plus simple, hein, quand on jouait avec Certiz, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de trucs comme ça. C'était peut-être plus simple. Il y avait peut-être plus de contact direct avec tous les acteurs et c'était peut-être plus facile comme relation.
D'accord. Après, c'est vrai que quand tu. Là, je vois ce matin, tu vois, j'ouvre ma boîte aux lettres, j'avais deux disques et même un vinyle qui m'attendait. Et puis c'est relativement rare maintenant, mais en fait c'est vrai que en fait le fait d'avoir l'objet fait que tu sais que tu vas te poser devant l'objet. Quand tu as un mail, quand tu as des mails, t'en reçois, j'en reçois des mails de label américain, australien.
Toujours un CD ou comme ça parce que bon, moi c'est peut-être plus ma culture de l'époque, mais c'est vrai que ouais c'est très impersonnel un mail et moi je comprends que. Quand on voit des mails, si t'as un fanzine, que tu reçois 50 mails du groupe, tu peux pas tout regarder et pas faire de tri facilement.
Oui, ça prend du temps. Ok, dernière petite question, qu'est-ce qui se profile à l'horizon pour le groupe? Et puis aussi, où on peut se procurer le disque, hein, quand on habite par
à Cabreton? Le disque, pour l'instant, pour se procurer, il vaut mieux aller sur... on a une petite page Insta ou Facebook et puis nous envoyer un petit message. Et puis à l'horizon, on aimerait bien jouer ce disque encore un peu. Là, on a quelques concerts prévus autour de chez nous en Aquitaine. En février, on essaie de se monter une petite tournée, aller un petit peu plus loin. On a quelques dates qui se profilent un peu plus dans le nord. Et puis voilà, alors on a des morceaux enregistrés. Je pense qu'on va se mettre à les enregistrer. Dans les semaines à venir, et puis écoute, on verra comment tout ça évolue.
Petit à petit, comme pour le reste.
Petit à petit, exactement, suivant les opportunités.
Ok, mais il me reste à te remercier. On va se quitter sur le troisième morceau choisi, Deep Ocean. Quelque chose à dire sur celui-là?
Écoute, ça me fait plaisir que tu aies choisi de le diffuser, parce que c'est un morceau que j'aime bien. Je trouve qu'on a fait une bonne structure du morceau, tu vois. Il a été compliqué à établir celui-là par rapport à d'autres. Et du coup, j'aime bien la structure. Voilà, c'est un morceau qui parle. En gros, c'est pour aller vite, c'est un rêve qui au réveil se transforme en cauchemar. Le contenu du morceau.
Ok. Eh bien, on va suivre l'affaire. Voilà. Donc j'invite tout le monde à écouter ce disque et à se le procurer parce que bon, visuellement c'est quelque chose quand même. C'est le genre de disque qu'on ne va pas cacher derrière les autres. Voilà, on le met devant.
Le but c'était d'avoir un bel objet. Ouais, quoi.
C'est vraiment un bel objet. Eh bien, merci beaucoup.
Travaillé, Tortuga.
merci à beaucoup, toi, Romain. Yann.
Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt. Salut.
Black Adidas, à l'instant, la formation américaine de Los Angeles, Are We There Yet, c'est un single, voilà, que j'ai trouvé sur le net, enfin que j'ai trouvé, qui m'est arrivé dans la boîte mail, voilà, et donc j'ai écouté ça hier ou avant-hier, et je trouvais ça pas trop mal, voilà, encore un grand merci à Romain de Means Due, formation de Cabreton, voilà, donc projet familial, hein. Il y a donc Romain et ses deux fils. Comme il disait, 16 ans et 12 ans, c'est vrai que c'est quand on va les voir sur scène, qui ont joué au MAD notamment, c'est assez surprenant parce que ça tient vraiment la route, quoi. Et le disque, c'est encore le niveau au-dessus. Voilà, ils ont vraiment bien travaillé, le son est excellent, les compos sont excellentes. Donc voilà, c'est vraiment une belle surprise et les gens qui les voient disent à peu près à chaque fois la même chose. Voilà, il y a une culture musicale derrière, il y a le fond, il y a la forme, il y a tout ce qu'il faut. Donc on va se quitter sur le groupe Earth Diver, formation américaine de Denver, Leave Something Witchy, c'est extrait de Lord of the Cosmos, mais ça date de 2020, je crois que c'est, j'ai trouvé ça chez Forbidden Place Records, voilà, un label dont on reçoit pas mal, je reçois beaucoup de choses, hein, mais pas toujours des choses récentes d'ailleurs, j'ai pas trop compris le... à quoi servait, est-ce que c'est un label qui produit des disques ou c'est un label qui distribue, voilà, donc à vous d'aller découvrir ça, vous avez un Bandcamp et il y a des choses en permanence, des choses nouvelles, et notamment il y avait les productions du label Pogo Records, etc, je crois que c'est par leur intermédiaire que j'y étais arrivé. Je vous rappelle que la semaine prochaine nous avons aussi une interview. Ça y est, j'ai perdu. Enfin, en tout cas, dans les prochaines semaines, vous avez Cathédrale. La semaine prochaine, c'est We Hate You, Please Die, la formation de Rouen, excellente. Dans la foulée, ce sera Cathédrale, excellent aussi, de Toulouse. Et puis, Patrick Foulux pour nous parler de son bouquin sur le label Black & Noir, label et magasin de disques légendaire, hein, qui... certains d'entre vous connaissent parce que vraiment Black & Noir c'était un peu la base. À un moment donné dans le projet on retrouvait notamment Eric Souris des Tugs. Voilà, donc le bouquin est excellent, mais je croyais avoir écrit une chronique, je pense que j'avais écrit, je l'ai perdu, donc je vais devoir relire une deuxième fois le bouquin. Ça c'est toujours le genre de truc très plaisant, heureusement que le contenu là est extrêmement intéressant. Voilà, on se donne rendez-vous à la semaine prochaine, enfin d'abord samedi pour la playlist Electric Troubles avec le groupe que je vous ai diffusé en première partie de notre émission aujourd'hui, voilà, pour l'album de la semaine, et puis plein d'autres choses diverses et variées, toutes sorties récemment. Voilà, ciao, bye bye. Thank you.